Henri de Régnier, La double maîtresse, première partie, chapitre 13. Alors, Nicolas de Galando, ahuri et effondré, assista au terrible spectacle de sa mère forcenée et furieuse. Ce furent d'abord des hoquets de colère, des grondements sans suite, avec des gestes d'énergumène. Puis, du volcan de cette fureur, jaillirent des jurements et des apostrophes plus distincts, et des mots qu'il ne comprenait pas et qui le terrifiaient d'autant plus. 40 ans de décence, d'orgueil et de bon ordre s'écroulaient en ce bouleversement inattendu qui mettait à la bouche de la vieille femme un langage qu'on eût imaginé à peine aux pires haranguères et aux dernières dégueuses. Cela lui montait du fond de la mémoire comme une marée d'ordures qui écumait à ses lèvres sa boue saumâtre et corrompue. C'était la langue qu'elle avait entendu parler à Bas-le-Pré par son père et par son frère, dans les plus laides disputes qui les mettaient aux prises brutalement et dont ils éclaboussaient tout autour d'eux. Le vieux Mosseuil ne se retenait guère pour gourmander devant ses filles leur ivrogne de frère et le réprimander de ses débauches. Il le faisait avec la bassesse de propos la plus crue, sans s'inquiéter des oreilles qui l'écoutaient. Madame de Galando avait trop entendu dans sa jeunesse ces ignobles querelles domestiques où on appelait tout plus que par son nom. Son frère l'avait à son tour et pour son compte poursuivi de toutes les ordures. Le misérable, qui ne respectait rien, ne la respectait pas davantage et la harcelait de ses discours et de ses desseins criminels. Que de fois elle avait dû se boucher les oreilles et repousser des mains brutales et avinées. Irrité de son refus et de son mépris, le cynique drôle prenait plaisir à étaler sous les yeux de sa sœur, sinon en fait, du moins en parole, l'ignominie de ses goûts, et c'était toute cette vase et tout ce faguena qui lui remontait aujourd'hui à la gorge par un retour inopiné. Elle avait revu en son fils ces mêmes mains hardies et scabreuses de l'homme qui cherche son désir, cette face sournoise et convulsive que fait l'approche du plaisir. Elle s'était jurée que Nicolas échapperait à la loi vulgaire et commune et de tout faire pour qu'il en fût ainsi, et la surprise d'une petite fille déjouait ses plans. Il avait suffi d'un peu de chair vivante et fraîche pour rendre Nicolas un homme comme un autre. Il avait palpé une gorge avec ses mains, flairé l'odeur d'une femme, cherché sur elle à tâtons la place animale du plaisir. Donc, Nicolas était un homme. Il était corrompu lui aussi de cette sorte de basse ardeur à la satisfaction de laquelle il subordonne tout le reste. Décence était née en lui et rien n'en arrêterait désormais le cours, ni les règles de l'honneur, ni les principes de la religion, ni aucune considération d'aucune espèce. À quoi donc avait servi l'éducation solitaire qu'elle lui avait donnée? Qu'avait fait de lui ses soins et ses précautions? Un larron qui pille mes fleurs, vole mes fruits pour une gueuse, un paillard qui assaille une fille sous mes yeux? Ah, le pandard, le maraud, pouah! Car dans sa colère, elle mêlait tout, et les rapports du jardinier Hilaire, et ce qu'elle venait de voir, allant et venant devant Nicolas hébété, oubliant ses années, ses maladies, sa coiffure dérangée, dont les mèches grises lui battaient la tempe. Puis elle pleurait, elle lui parlait presque doucement, jusqu'à ce que quelque image vint lui rendre toute sa fureur. Julie avait sa part d'injures. À chacune, Nicolas redoublait de larmes, ce qui exaspérait encore davantage Madame de Galando. Elle s'emportait contre Julie, puis mêlait à sa rage des propos de théologie. Des mots de Bible, des bribes de psaumes lui sortaient de la bouche avec des paroles de corps-de-garde et de mauvais lieu. Et les invectives allèrent leur train 2 heures durant. Elle marchait sur Nicolas et le secouait durement par l'épaule. Le soir était venu. Un peu de vent qui s'était élevé avait poussé le volet. Madame de Galando ouvrit l'une des fenêtres. Ses mèches grises frissonnèrent. Des parfums d'arbres entraient. Madame de Galando y reniflait une odeur de péché. Julie l'avait apportée dans ses cheveux, dans sa chair sournoise de petite fille, dans ses habits. Cette odeur avait mûri à l'ombre des arbres du jardin. Maintenant, elle occupait l'espace et Madame de Galando se bouchait le nez, crachait par terre. Nicolas la regardait avec épouvante et ne reconnaissait plus sa mère dans cette furie aux gestes brusques, à la voix rauque et enrouée. Il ne la voyait presque plus car l'obscurité augmentait et Madame de Galando continuait à se promener dans l'ombre d'un pas lourd et trébuchant, silencieuse maintenant et comme abattue par l'excès de sa fureur, tandis que Nicolas tâtait sa joue meurtrie, se mouchait, pensait à Julie et se remettait à pleurer. Il pleura toute la nuit. Madame de Galando, en sortant, avait fermé la porte à clef. En vain, Nicolas secoua la serrure. Il lui fallut, bon gré mal gré, rester là, seul et sans lumière. Le château semblait mort. Aucun bruit. Enfin, l'aube parut, blanchâtre et farineuse, et Nicolas entendit des pas dans le jardin. Le vieux jardinier Hilaire passa et repassa plusieurs fois sous les fenêtres, sans lever la tête. Nicolas, n'osant l'appeler, lui faisait des signes désespérés. Le jour grandissait rapidement au ciel tout rose d'aurore. Nicolas, en se penchant, pouvait voir par-dessus les toits des communs un coin de l'avant-cour du château. Les pavés gris, roses et bleus, luisaient de rosée. Comme au jour de l'arrivée de Julie, deux gros pigeons s'y promenaient. Il reconnaissait leur vol nuancé, leur engorgement et leur démarche battue. Il les suivait des yeux. Un troisième vint se poser auprès des deux premiers. Tout à coup, ils s'envolèrent de concert, comme si on les avait troublés. Nicolas entendit un bruit de roues, le grelot d'un attelage paysan qu'il ne voyait pas. La voiture devait être arrêtée dans un autre coin de la cour. Un bruit de sabots raclait parfois le pavé. Une sonnette tintait. Les pigeons reparurent, ils étaient en nombre et picoraient activement. Puis ils se groupèrent et s'envolèrent ensemble d'une seule bouffée. L'angle de pavé resta vide sous le soleil. Nicolas de Galando s'agitait. Ses larmes recommençaient à couler sur sa longue figure. Julie traversa d'un pas alerte le petit espace découvert. Il distinguait parfaitement ses traits. Il revit sa figure insouciante et fraîche. Elle était habillée comme la veille. Hilaire la suivait. Elle disparut, un grelot sonna, des roues grincèrent, un coup de fouet retentit, dont Nicolas crut ressentir au visage la cinglante lanière. Il passa la journée à la fenêtre sans quitter des yeux ce petit angle de la cour pavée où il venait de voir Julie pour la dernière fois. Il ne toucha à aucun des repas qu'on lui servit sur la table de mosaïque et resta 3 jours enfermé dans la bibliothèque. Le soir du 3e jour, Hilaire vint le chercher et le conduisit sans mot dire dans l'appartement de Madame de Galando, où la vieille servante lui recommanda d'entrer doucement. Sa mère était au lit. Elle le regarda sans le reconnaître, les yeux tournés, le visage décomposé et la bouche tordue, sans voix et sans mouvement. Il apprit des servantes qu'on venait de la relever ainsi tout à l'heure, tombée le nez sur le carreau. Nicolas remplit la chambre de cris et de lamentations, s'arrachant les cheveux et se frappant la poitrine jusqu'à l'arrivée du médecin qu'on envoya chercher. En attendant, le curé de Pontaubel était venu pour les sacrements et avait procédé aux onctions. On n'avait pas pris le temps d'aller jusqu'à la ville. Hilaire avait rencontré en route M. Port-du-Bon de Saint-Jean-la-Vigne, qui faisait sa tournée montée sur sa mule et l'avait amené faute de mieux. Il était âgé et bavard, mais pas trop ignorant. Il saigna. Madame de Galando ne mourut pas. La secousse qu'elle avait ressentie l'atteint entre deux pendant plusieurs semaines et elle ne sortit de là que percluse, sans l'usage de ses membres, mais la tête intacte et par malheur pour Nicolas, ayant retrouvé avec ses sens toute la rancune de son grief. Les représailles en furent terribles. Madame de Galando ne cessait de reprocher à Nicolas ce qu'elle appelait sa faute, de lui en ressasser l'ignominie et la bassesse. Le pauvre garçon y prit le sentiment d'être un grand pécheur et vécut dans l'accablement de son opprobre. Par un raffinement extraordinaire de casuistique, elle lui interdit de s'en confesser, prétendant que le pardon pouvait lui en prétexter l'oubli et qu'il n'en trouverait la véritable pénitence que dans le suspens continuel où elle le tenait au-dessus de l'enfer. Que de fois, assis au chevet du grand lit à colonnes où reposait sa mère, dut-il subir l'interrogatoire des circonstances et du détail de son péché. La terrible femme s'acharnait à ce souvenir cuisant, et c'était lamentable, ce visage attentif en ce corps immobile, écoutant pour la 100e fois le récit de l'aventure. Elle le pressait de questions, jamais désarmée par la naïveté ou par la soumission du malheureux. Sans compter que ses entretiens renouvelaient sa colère. Son corps inerte ne pouvait l'aider à l'exprimer. Elle passait toute sur son visage, en contorsion, et par sa bouche en reproches, en injures, en soupçons, si bien que cette chambre de malade s'emplissait de propos acariâtres et violents, et du honteux litige de ce débat, sans fin, où se discutait la façon dont Nicolas avait agi à l'endroit d'une fillette sensuelle et sournoise. Pendant ce temps, Julie était loin. Le vieil Hilaire l'avait ramenée au Fresnay avec une lettre où Madame de Galando exigeait le mariage sans délai de la jeune fille et pour y aider la dotait de 10 000 écus à condition que l'affaire fût prompte. Elle ajoutait « Je n'ai point voulu la mettre au couvent ni souiller de sa présence une maison de Dieu. » Monsieur et Madame Dufresnay, qui, depuis la découverte du livre et de la gravure, vivaient dans les transes, ne furent qu'à moitié surpris de l'esclandre. Ils jugèrent que le mieux était de marier Julie et pour cela de profiter du don de Madame de Galando. Eux n'y pouvaient rien ajouter, leur bien consistant en usufruit. Après s'être consultés, ils proposèrent à Julie deux parties, mais ils faillirent tomber des nues quand elle déclara vouloir épouser le gros porte-bise. Après s'être récriés, ils pensèrent d'un commun accord qu'il lui revenait après tout de réparer le mal qu'il avait fait. On écrivit donc à gros amis. En attendant sa réponse, Julie ne montrait aucun embarras. Porte-bise accepta la fille et les écus. Le mariage se fit en novembre au Fresnay. Les époux partirent le jour même pour Paris et on n'entendit plus parler d'eux. Monsieur Dufresnay retourna à ses instruments et Madame Dufresnay à ses sucreries. Mais souvent, le soir, quand Monsieur Lemellier venait les visiter, il les trouvait le cœur gros et les larmes aux yeux. Le temps passa. Ils vieillirent. Monsieur Lemellier mourut d'une morsure envenimée qu'un chien de la ferme lui fit une fois qu'il retournait à pied chez lui la nuit. Le son nocturne de la vielle avait irrité la bête. Madame Dufresnay, quelques mois après, tomba malade et ne se releva pas. Monsieur Dufresnay languit et on finit par le trouver étendu mort dans le pavillon de musique. Les contrebasses et les violoncelles le regardaient curieusement. Comme on était en été, la porte du pavillon était ouverte et un vent léger feuilletait d'un doigt invisible les pages de la sonate étalées encore sur le pupitre. Cette mort advint presque en même temps que le décès de Madame de Galando, le tout en 1749. 3 ans après l'affaire de Julie, Nicolas se trouva seul à Pontaubel. Monsieur Levasseur, qui régla la succession, lui apprit que, grâce aux économies de sa mère, il était un des plus riches seigneurs du pays. Quoi qu'il en fût, Nicolas continua à vivre à Pontaubel comme par le passé. Il ne chercha ni à en sortir, ni à retrouver Julie. Il resta ainsi plusieurs années. Son existence était la plus régulière du monde. Il ne voyait personne. Les deux vieilles servantes de Madame de Galando trépassèrent l'une après l'autre. Le vieil Hilaire demeura seul. Il avait abandonné ses jardins pour la cuisine et cuisait les œufs que Monsieur de Galando allait chercher lui-même à la basse-cour. Il tirait du village le pain et le peu de viande qu'il ajoutait à ce repas. Le tout ne coûtait pas à Nicolas plus de 1 200 ou 1 500 livres par an. Cela alla ainsi jusqu'à la mort du vieil Hilaire, c'est-à-dire 7 ans, jusqu'en 1756. Une fois le bonhomme enterré, Nicolas, qui avait suivi jusqu'au cimetière son dernier serviteur, revint vers Pontaubel. Il marchait doucement, la tête basse. Il rentra dans les jardins par la petite porte qui donne sur la route et ouvre non loin du miroir d'eau. On était en mars. Les arbres se reflétaient nettement. L'un d'eux portait un nid de pie à une fourche de ses branches nues. Le petit bassin était rempli. Le triton, humide, luisait. Il avait plu. De grandes flaques miroitaient dans les allées. Les pas marquaient profondément au sol détrempé, comme si la terre, au passage, eût voulu conserver quelque chose du passant. Nicolas s'arrêta devant un banc adossé à un treillage rompu. Il regarda longuement la futaie. Les troncs se dressaient droits et lisses. Le lierre tapissait le sol de sa verdure métallique. Monsieur de Galando était devant le château. Entre les deux parterres d'eau, la borne de pierre du cadran solaire. Toutes les fenêtres de la façade étaient closes de leurs volets fermés, hors celle de la bibliothèque qui restait ouverte. Quand il rentra, ses pas résonnèrent dans le vestibule. Il descendit d'abord aux cuisines. Les murs frustes soutenaient la voûte nue. La grande cheminée s'ouvrait comme un porche. Des toiles d'araignées pendaient aux tournebroches. Les casseroles s'alignaient auprès des coquemars et des chaudrons. Ça et là, de larges bassinoires de cuivre rouge ou jaune. Il y avait sur une table un vieux couteau et un panier avec quelques œufs. Monsieur de Galando s'approcha de la cheminée. C'est là qu'on avait cuit pendant 40 ans ce qu'il avait mangé chaque jour. Les grosses bûches avaient brûlé là pour la table plantureuse du feu comte. La braise y avait chauffé le frugal ordinaire de sa mère. Dans un coin, un petit tas de cendres restait encore du feu maudit où le vieil Hilaire faisait durcir les œufs. Nicolas allait de pièce en pièce. Le plus souvent, il ouvrait la porte, regardait sans entrer et enlevait la clé de la serrure. Il en eut bientôt à la main un gros paquet. Il y avait là celle de la chambre où il avait dormi, celle de l'appartement où sa mère était morte. Il y avait pénétré sur la pointe des pieds. Le grand lit à colonnes était à la même place. Il traversa la droguerie. Les bottes d'herbe sèche s'émiettaient au plafond et tombaient en poudre. Les flacons, les fioles, les bouteilles grisonnaient sous la poussière. L'encre des étiquettes s'effaçait jaunie. Une odeur officinale prenait à la gorge. Dans la bibliothèque où il passait ordinairement les journées, il s'assit sur le fauteuil et resta près d'une heure immobile. Puis il se leva, ferma un livre ouvert qu'il remit à son rang. La basque de son habit frôla en passant l'angle de la table de mosaïque. Il sortit, ferma la porte et descendit l'escalier. Il descendait lentement, marche par marche, une main à la rampe de fer forgé, l'autre portant l'ample trousseau. Dans le vestibule, il prit sa canne, se coiffa. Une fois dehors, il tira à lui le gros battant. La grosse clé grinça. Il les tenait toutes maintenant à sa main. Chacune enfermait un peu de son passé. Elles étaient toutes là, petites ou grandes, polies ou rouillées. Une seule y manquait, qu'il n'avait sans doute pas osé aller prendre à sa serrure, au bout du corridor, celle de la chambre où avait dormi Julie de Mauceuil. Monsieur de Galando fit à pied les 5 lieues qui séparent Pontaubel de la ville. Il y arriva vers le soir et heurta droit à la porte de Monsieur Levasseur, avec qui il s'entretint en secret et assez longuement. La poste pour Paris passait vers 9 heures. Il monta dans la rotonde, s'assit, mit sa canne entre ses jambes, croisa ses mains sur la béquille et y appuya son menton. Les chevaux tirèrent, le fouet du postillon claqua, et Monsieur de Galando se trouva en pleine nuit, roulant au galop sur le pavé du roi.